Héros de la Première Guerre mondiale, formé à l'école de Lyautey, le colonel de la Roque reprend en main, dès 1929, l'Association nationale des Croix de Feu, issue d'un mouvement d'anciens combattants. Sous l'impulsion de leur nouveau président, les Croix de Feu se donnent un programme, un journal, le Flambeau, et un hymne que le colonel présente à ses adhérents le 18 mai 1935.
J'adresse ces quelques mots à mes camarades, aux amis innombrables de mes associations. Je leur demande d'ajouter à notre Marseillaise immortelle, qui doit garder sa place souveraine, le chant des Croix de Feu et des volontaires nationaux. Ce chant est étranger à toute musique vulgaire, à toute rengaine triviale. La ligne mélodique si pure, si simple et si profondément sincère de cet hymne à l'espoir, à la joie, à l'honneur, est soutenue, étoffée, par une orchestration brillante dont la technique impeccable est au service de l'art le plus raffiné. C'est ce mélange de lyrisme populaire et de science qui rend le chant des Croix de Feu et des volontaires nationaux éminemment symbolique. L'école musicale moderne française est la première du monde. Les autres pays ne discutent même pas cette évidence. Delvincourt, grand blessé de guerre, auteur qui jamais n'a galvaudé son art, en est un exemple typique. Gabriel Boissy, grand blessé de guerre, chantre du soleil, des arbres et de la terre où Pétrarque voulut vivre, devait nous apporter des strophes claires, dépouillées, rythmées, sœurs des strophes d'un Frédéric Mistral. Les auteurs de notre hymne ont consacré leur vie au devoir civique et à la beauté. Et voici que mon camarade Charles Panzera, ancien combattant des premières lignes, interprète somptueux, orfèvre de la mélodie, veut bien lancer lui-même au pays notre cri de réconciliation. Tous trois étaient désignés pour être les bardes sublimes et ardents de notre nouvelle chanson de geste. Car la geste Croix de Feu ramènera la France à sa tradition, l'entraînera vers le progrès humain, la restituera vivante et rajeunie au peuple de chez nous. Celui-ci, qu'on ne saurait niveler vers le bas sans le jeter dans la décadence, ne retrouvera l'expression de son génie que par un effort constant pour égaliser ses enfants vers les sommets de l'âme, de l'esprit, de la fraternité sociale. Ainsi, notre pays sera-t-il rendu à ses destins. Nous voulons la France française.
Les Croix de Feu se sont dressées pour chasser toutes les souffrances, pour que l'honneur renaisse en France et que le vainqueur respecté de nouveau chante sa fierté aux oiseaux bleus de l'espérance. Chacun se taise, les vieux cordes, nos vieux clochers, sur les vergers, sur les celliers, ont lancé l'appel enchanté. Nous voulons la France française, nous voulons la France française. À l'âme franche et le volontaire au franc cœur, par l'amour d'un peuple sans peur, feront le destin de la France que déjà retentissant en cœur volontaire votre espérance. Que chacun se taise, vous entendrez dans les maisons, sur les gazons, sur les buissons, le refrain des gentils garçons. Nous voulons la France française, nous voulons la France française. Les croix de feu sont devant vous, à par leurs faisceaux revenait la France, et le bonheur dans les maisons et les refrains de l'espérance. Écoutez, écoutez, que chacun se taise. L'honneur revient dans nos maisons et les chansons dans les buissons, les croix de feu sont bons garçons. Ils refont la France française, ils refont la France française.
C'est par le truchement de disques souples envoyé aux sections des croix de feu de toutes les provinces françaises, que le colonel présente ses vœux pour 1936. Il y rappelle la vocation sociale du mouvement et son désir de réconcilier les Français.
Mes chers amis, bonne et heureuse année 1936. Les 12 mois écoulés ont vu le définitif épanouissement de vos associations. Voici venir l'époque où se consacrera leur rayonnement à travers le territoire. Alors, je ne me bornerai plus à vous présenter mes voeux de prospérité individuelle. Je pourrais ajouter la merveilleuse nouvelle de la prospérité française reconquise. L'œuvre sociale où vous vous êtes lancés à corps perdu a été la décisive annonce de votre succès. Nous ne l'avons pas conçue selon le cadre étriqué de quelques bienfaits sans lendemain, de quelques fondations parcellaires limitées aux seuls membres de nos groupements. Vos fières visées tendaient à la rénovation civique. Il nous fallait représenter à la mesure de nos seuls moyens, l'esquisse complète de ce que nous ambitionnons pour la patrie entière. Pas un puissant de ce monde anarchique, égoïste et domestiqué ne peut se targuer d'avoir financé ni influencé nos entreprises. Vous êtes vos propres commanditaires, vos uniques protecteurs. Aussi, quelle magnifique et foudroyante éclosion. Des dizaines de milliers d'enfants soignés, entourés, préparés à leur avenir professionnel. Voilà votre travail, femmes admirables de notre section sociale. Grands vainqueurs qui construisez la paix, et vous, nos cadets, qui êtes la certitude éclatante de nos lendemains. Attentifs à mes appels, vous ouvrez vos bras aux enfants qui ne sont pas encore des nôtres, mélangeant cette émouvante jeunesse en une fraternité ignorante des classes, des origines, des fortunes, des pauvretés, respectueuse de toute croyance, de toute conviction. Enfin, comme une onde rafraîchissante et salutaire, l'annonce de la réconciliation a jailli de la croix de feu, conviant tous les bons citoyens au rapprochement des cœurs, au désarmement des bras, dont vous avez su donner le vivant et courageux exemple. Les honnêtes gens ont levé leur regard vers cette formidable et joyeuse espérance, pendant que les artisans de dissension baissaient la tête, se tournaient vers l'ombre pour y cacher leur rage, et cherchaient le chemin de leur fuite prochaine. C'est devant de telles perspectives que s'ouvre 1936. Vous êtes qualifiés par le commandement de nos morts victorieux. Nourri par la tradition de 15 siècles d'honneur et de générosité, votre lustre est né du triomphe de l'organisation, de la vigueur et de la pureté française. Vous ramènerez la concorde, vous assurerez la paix, les plus triomphants du drapeau tricolore, je vous le souhaite, je vous le promets.
Le 16 février 1936, les présidents de section Croix de Feu se réunissent dans la salle du Magic City et accueillent leur chef avec enthousiasme.
Messieurs, mes chers amis, je vous remercie de votre accueil. Je vous le reporte, je le reporte sur vous tous, autrement dit. L'affection croix de feu veut bien aller vers moi, va vers ce que représente le mouvement croix de feu, et c'est simplement un devoir pour ma petite personne que de se rendre digne de tant d'affection et de tant de beauté. Depuis le mois dernier, un certain nombre d'événements ont survenu qui ont justifié que je vinsse devant vous aujourd'hui afin de vous expliquer l'attitude qu'ont observé les croix de feu et de vous commenter cette attitude. Depuis le mois dernier, le cabinet Laval est tombé, le cabinet Sarrault l'a remplacé. Ne dépensez pas une énergie qui pourrait faire tourner des moteurs.
C'est bien là-bas, les tombes.
Pourquoi serions-nous intervenus? Pour faire le jeu des révolutionnaires qui attendent que nous commettions des actes en apparence illégaux pour, avec une apparence de légalité, prendre le pouvoir afin de fonder l'illégalité définitive dans la guerre civile. Ou bien, est-ce qu'on voulait que nous intervenions pour une de ces bonnes majorités qui, depuis 1918, ont successivement avalisé, je ne fais pas de mauvais jeu de mots, ont successivement avalisé tous les désirs des gens de l'extrême gauche, une de ces bonnes majorités qui ont fait le même mauvais travail que les autres, mais qui l'ont garanti sous une enseigne rassurante pour les bons citoyens qui ne demandaient qu'à s'endormir.
Léon Blum ayant été attaqué au Quartier Latin, le gouvernement porte ses soupçons sur les Ligues d'Action Française et prononce leur dissolution. La Roque, qui a constamment subi leurs attaques impitoyables, souligne cependant que la décision du gouvernement lui paraît contestable.
Je ne suis pas suspect d'être aimé de ces mises qui ont été dissoutes. Je ne suis pas suspect de collusion avec elles. On ne suis pas honoré dans l'attitude qu'on a observée vis-à-vis de moi. Et, mon Dieu, au moment où les gens du Front populaire criaient « La Roque au poteau », ce « La Roque au poteau » avait son écho parmi les gens d'Action Française. Mais ceci importe peu. Et je n'en suis que plus à mon aise pour dire que le gouvernement actuel, en appliquant son motif démantelé, une loi d'exception et d'absurdité, a commis une ineptie, une lourde faute et un acte de veulerie qui, comme toutes les veuleries bourgeoises, se retourna, je l'espère, contre lui.
L'indépendance face à l'étranger est un devoir sacré, poursuit la Roque.
Nous refusons, nous, d'aller chercher des instructions ou de l'argent, ou même des modèles à copier à l'étranger, où que ce soit, pas plus à Londres qu'à Berlin, qu'à Rome ou qu'à Moscou. Car dans une France remoralisée, les personnages se pressent ou autres. Et faites bien attention, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ils iront chercher leurs instructions ou leur argent à l'étranger, devront être définitivement privés de leurs droits civiques. Dans une France remoralisée, la verrons-nous, vous n'avez qu'à vous regarder vous-même. Vous n'avez qu'à vous rendre compte de cette montée, de ce flot que vous représentez, non seulement à Paris, non seulement de l'accroissement de vos effectifs, je sais bien, 18 000 nouveaux adhérents entre le 1er et le 15 février, mais c'est quelque chose, cela, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus fort, c'est qu'en ce moment, c'est surtout le territoire de France, dans ces coins où on nous disait rien n'en sortira jamais, surtout les coins du territoire de France, il se lève, il apparaît, des cellules croix de feu.
Le 7 mars 1936, Hitler viole les pactes de Versailles et de Locarno et réoccupe militairement la Rhénanie. La Roque convoque aussitôt la presse pour lire une déclaration où il dénonce le geste du dictateur allemand et demande que la France mette au premier plan de sa politique un égoïsme sacré, exclusif des passions partisanes.
Je représente le mouvement Croix de Feu, je déclare, primo, que la France ne saurait s'accommoder ni des bénédictions de M. Staline sur notre défense nationale, ni des appréciations insolentes de M. Hitler sur notre marche vers la Révolution. La déplorable habitude observée par tant d'hommes d'États étrangers d'intervenir dans les affaires des autres pays et d'y influencer l'opinion à l'instar de la Société des Nations ne peut engendrer que désarroi et conflit. Nous n'avons pas d'exemple, de conseil, de mots d'ordre à rechercher au-delà de la Manche, du Rhin, des Alpes, de l'Atlantique. Nos pèlerins sans compétence et sans mandat ne peuvent qu'y nuire, s'y rendre ridicules ou méprisables. Deuxièmement, qu'une France humaine, réconciliée, devra, avant toute considération, mettre au premier rang de sa politique un égoïsme sacré, exclusif des pressions extérieures. C'est ainsi qu'elle apportera l'effort le plus précieux aux causes conformes à son intérêt, la meilleure collaboration à ses amis, la plus efficace contribution à la paix du monde.
Le premier tour des élections législatives a été fixé au 26 avril. Dans le cadre de la campagne électorale, le colonel prend la parole le 24 avril à Radio PTT.
Depuis 18 ans, pour ne pas remonter plus loin, nous avons vécu sous le régime de l'improductivité. Tout s'est passé comme si les hommes et les institutions, incapables de créer ni même de s'adapter, avaient opposé une obstruction chagrine à chaque initiative, à chaque effort. À droite, le conservatisme de l'immobilité, constamment tourné vers les temps révolus, tenant le progrès pour une infidélité à la tradition. Entre la droite et l'extrême gauche, le conservatisme égoïste, attaché au désordre lui-même, pour peu que la continuation du désordre assure le maintien de quelques bénéfices, de quelques habitudes faciles. Ici et là, recherche incessante des solutions provisoires qui, au drame du travail, de la famille, du trésor, de la sécurité, répondent par des expédients, des apaisements, des palliatifs, par des décrets-lois. La France recèle dans son propre sein tous les éléments nécessaires au redressement de son régime, de son économie, de son équilibre intérieur. Elle peut, elle doit se dispenser du recours au despotisme d'un chef unique et absolu si, enfin, on lui permet d'engendrer des chefs. Si on encourage dans tous les milieux la formation de ses chefs, si on ouvre à ceci le champ des activités fécondes, au lieu de s'employer à obtenir des subsides, à niveler les caractères, à employer des soporifiques, des expédients.
Rejetons les dictatures, qu'elles soient bolcheviques, hitlériennes ou fascistes, ajoute Larocque, puis il conclut.
Le désarroi où notre pays se débat ne peut prendre fin que dans une atmosphère de clarté, de pureté. Le mouvement Croix de Feu ne sert ni les ambitions collectives, ni les ambitions individuelles de ses membres ou de ses dirigeants, mais uniquement l'intérêt national. Il est qualifié pour dégager une telle atmosphère. C'est celle grâce à quoi nous poussons au pouvoir, non pas nous-mêmes, mais nos idées, afin que d'abord la moralité soit restaurée dans nos institutions, dans leur jeu et parmi ceux qui les appliquent, afin que la famille française soit effectivement défendue, dignement représentée. Cette œuvre préliminaire accomplie, les hommes de bonne volonté, d'où qu'ils viennent, aborderont ensemble les grandes tâches de la rénovation.
Le deuxième tour des élections a lieu le 3 mai et porte une majorité de Front Populaire à la Chambre. Au cours d'une interview, le colonel rappelle, le 2 juin, les principes fondamentaux du mouvement Croix de Feu.
La France ne construira rien sinon sous la protection d'un ordre préliminaire à base de moralité. Cette action préside à l'œuvre Croix de Feu. Le bolchevisme de Moscou nous conduirait à l'anarchie, au carnage, à la mort. L'imitation fasciste ou naziste, en imposant à la France un régime contraire à ses aspirations, à son génie, contraire au respect de la personnalité, la jetterait immanquablement vers les horreurs de la Révolution rouge. Nous n'appartenons à personne, aucune préoccupation de plaire ou de déplaire, de ménager celui-ci, de satisfaire celui-là, ne guide nos décisions. Revêtus de cette puissance, entraînés par le peuple lui-même, inspirés par la tradition, tendus vers l'avenir, nous sommes vraiment la grande collectivité de laquelle s'élève la voix de la sincérité, de la fraternité, de l'honneur. Nous sommes vraiment le symbole de la réconciliation française.
Le 20 juin 1936, le gouvernement de Front Populaire décrète la dissolution de l'Association nationale des Croix de Feu et des Volontaires nationaux. Dès le lendemain, 21 juin, Larocque fonde le Parti social français, dont le premier congrès national se réunit salle Wagram du 18 au 20 décembre 1936. Les rapporteurs y définissent leur position et leur programme dans les divers domaines de l'activité nationale. En fin de matinée, à l'issue de la dernière séance de travail, Larocque lit la déclaration du parti.
Le Parti social français, constatant qu'il est aujourd'hui le plus puissant
par le nombre, par la cohésion, par la résolution, face aux deux dangers qui menacent le pays. Révolution sanglante et régression vers la barbarie asiatique, d'une part. Décadence des institutions, impuissance des vieux cadres de la société, de l'économie, de la politique, d'autre part. Fermement attachés aux libertés républicaines qui forment l'aboutissement de la glorieuse histoire de France, qui exclut la dictature fasciste, l'absolutisme hitlérien et l'esclavage inhumain du marxisme soviétique, mesurant à sa propre force et à la profondeur de ses convictions l'ampleur des responsabilités qui lui incombent au milieu des graves circonstances de l'heure, déçu de jouer complètement son rôle dans l'activité civique, il s'agit du domaine de la profession, du domaine de l'éducation, du domaine social ou du domaine politique, et particulièrement du domaine électoral. De mettre toutes ses ressources morales, humaines, matérielles en œuvre, afin d'accéder au pouvoir suivant les voies légales, en usant des droits civiques et politiques accordés par la Constitution à tous les citoyens. De se dresser victorieusement, il est nécessaire, contre toute tentative des partis de révolution, cherchant à imposer leur dictature par cette violence qu'ils répouvent et dont ils n'ont point peur. À ces fins, proclame sa résolution de réhabiliter le travail, de défendre la famille, de sauver la patrie dans le respect de toutes ses traditions, dans la poursuite audacieuse et infatigable du progrès sous tous ses aspects. De réaliser la réforme de l'État, fondée du pouvoir de la patrie, serviteur de la chose publique. En restaurant le principe de la responsabilité, en conférant au président de la République un droit réel de désignation des ministres, de dissolution et de message. N'astreignant le président du Conseil au contre-sein de tous les actes gouvernementaux engageant la politique générale et les finances publiques. En rendant les ministres individuellement responsables de leur gestion personnelle. En contraignant les membres des deux chambres à renoncer aux vieilles pratiques de l'abstentionnisme et de l'absentéisme. En retirant à la Chambre des députés l'initiative des dépenses. En établissant simultanément le vote des femmes, le vote familial et le vote obligatoire. En obtenant une réforme électorale, assurant la représentation proportionnelle, dégageant enfin les féodalités de l'arrondissement, les forces indépendantes de la pensée française. En conférant aux fonctionnaires un statut leur interdisant le droit de grève et de coalition et leur accordant la propriété de leur état, de leur grade et toutes les garanties requises de dignité professionnelle. En interdisant les démarches de recommandation parlementaire auprès des services publics. En ménageant aux différentes catégories de travailleurs dans la représentation nationale une part correspondante à leur utilité civique, en pratiquant une refonte des administrations d'État, départementales et communales, prohibant les cumuls, contrôlant l'établissement et l'emploi des budgets, assurant à la fois le rajeunissement des cadres et la retraite du personnel atteint par la limite d'âge, en contrôlant les ressources des bénéfices de la presse, des industries, fabriquant du matériel de guerre dans la distribution des fournitures nécessaires à la vie de la cité. En poursuivant la suppression de l'anonymat en matière de société et en instituant un conseil de l'ordre des banquiers.
L'après-midi, face aux 1500 délégués et à l'immense foule des sympathisants, le colonel entreprend de dégager par un discours retentissant l'esprit qui anime le nouveau parti.
Rien de nouveau à l'intérieur. Disparition progressive du rayonnement vers l'extérieur. Telle est la situation à laquelle il faudrait maintenant
définitivement vous résigner. Or, admettre cela, passer au deuxième rang ou au troisième rang des nations, c'est proprement déserter. C'est accepter la décadence définitive. Et acceptant la décadence définitive, c'est enlever à l'humanité l'un des soutiens essentiels dont elle a besoin pour ne pas tomber dans la barbarie de la préhistoire. Vers ce qui se passe actuellement aux confins de l'Asie. Le régime barbare et déshonorant de la Russie des Soviets. Voyez en face d'une France mutilée, d'une France mourante, le danger qui menace aujourd'hui non seulement la civilisation occidentale, mais la civilisation tout court. Les bons apôtres des vieilles habitudes politiques, les conservateurs de l'immobilité, les sceptiques, ose se tourner vers le PSF et demander en quoi celui-ci représente quelque chose de nouveau, représente une idée revivifiante. En quoi, je vais le leur dire en votre nom à tous. Lorsque, au mois d'avril 1936, un certain manifeste apporta quelques semaines avant les élections le programme des idées nécessaires à une renaissance nationale. Ceux qui ont tout manqué, ceux qui ne se sont pas montrés capables d'agir, ceux qui, ayant vu le mal, s'en sont accommodés, quitte à pleurnicher ou à maudire, dans les salons ou les arrière-boutiques, ceux-là nous ont qualifiés de démagogues. Congé payé, minimum de salaire, profession organisée, respect des formes de gouvernement adoptées, j'allais par l'étranger, mais volonté de rétablir chez nous un ordre vraiment contemporain, respectueux de la tradition, protecteur de l'individualisme gaulois, à la fois flexible et ferme comme le génie même de notre race, utilisation de ce qui existe, syndicats, associations professionnelles, régime républicain, les uns traitèrent cela d'utopie, les autres d'anticipation folle.
Le 3 avril 1937, l'Union syndicale de la région parisienne exige du président du Conseil la dissolution du PSF. Léon Blum, qui, le mois précédent, affirmait publiquement que la ROC avait purement et simplement reconstitué les croix de feu, prend des mesures pour faire déférer les chefs du mouvement en correctionnel. Sollicité par Radio Cité, le colonel fait devant le micro une vibrante déclaration qui sera reproduite dans l'ensemble de la presse non communiste.
À la suite de la décision de justice qu'il atteint, le colonel de la ROC, président du Parti social français, a bien voulu faire aux auditeurs de la Voix de Paris la déclaration suivante. Colonel, vous cède le micro.
On m'annonce que je vais être radu en correctionnel pour la journée du 13 mars où nulle affiche provocante n'a blessé à la troupe, dont le bilan n'accuse ni mort, ni blessé, ni coup de feu. Je me bornerai à deux rapprochements. Des mots. L'ordonnance de renvoi en correctionnel a le surlendemain de la démarche des délégués de l'Union Générale des Syndicats CGT de la Seine de prendre des mesures à l'encontre du PSF. Ne sont-ce point là ces brusques réveils de la justice dont parlait M. Campari à la séance du 23 mars dernier au Palais Bourbon. Deuxièmement, nous voici déférés en correctionnel pour la journée du 4 octobre, notre inculpation date du 6 octobre 1936. Or, les signataires des affiches provoquant à l'émeute du 16 mars à Clichy, 5 morts, plus de 200 blessés, ne sont même pas encore poursuivis. Le français, de gauche comme de droite, a l'horreur de l'injustice. La plus belle des propagandes en faveur du PSF est celle dont use le gouvernement vis-à-vis de nous. Nous n'avons rien reconstitué, rien maintenu. Nous avons appliqué au cadre normal d'un parti organisé suivant le modèle du parti SFIO, non point l'esprit de lutte des classes comme ce dernier, mais l'esprit réconciliateur et rénovateur des croix de feu. Nous entraînons plus de 2 millions d'électeurs. Il n'est plus de village, si modeste soit-il, où nous ne possédions un noyau solide et ardent à se dévouer socialement, professionnellement, politiquement. Une pareille œuvre ne saurait être détruite ni même enrayée. La France, en dépit des espérances de Moscou, n'est pas mûre pour un régime dictatorial où seul serait autorisé un parti ou un groupe de partis officiels. Brimer, persécuter, dissoudre le PSF, c'est accélérer le succès de son entreprise patriotique et sociale. On me permettra de terminer à la dernière phrase de l'ordre du jour voté samedi par les 300 membres unanimes de notre comité directeur. Nous affirmons notre volonté de continuer, quoi qu'il arrive, notre activité civique dans tous les domaines, derrière des chefs qualifiés par un passé inattaquable pour la défense des libertés républicaines, l'honneur de la nation et le maintien de la paix.